Bonjour à tous, merci d'être venus, merci également à tous, vous tous qui nous suivez à travers Vox Congo, ce magazine qui passe sur votre radio. Aujourd'hui, dans ce Café Presse, nous avons invité pour vous Eugène Kandolo, qui est coach en communication politique, qui anciennement était également candidate, mais qui a fait des études en journalisme, mais également s'est spécialisé dans les suivis du processus démocratique à travers notamment plusieurs organisations. Donc je vais dire bonjour à Eugène Kandolo. Alors on a également Madame Immaculée Chibalonza, qui est candidate à la députation provinciale pour le compte de la FDC Angaliema. Bonjour Madame. Et enfin Suzy Bakajika, ancienne journaliste et qui s'est spécialisée également non seulement ici en RDC mais également dans plusieurs autres pays africains dans le suivi électoral, qui a travaillé dans plusieurs projets et aujourd'hui elle va également s'entretenir avec nous sur cette thématique que vous voyez. Comment les femmes candidates peuvent-elles parvenir à surmonter les inégalités hommes-femmes pendant la campagne électorale? La question est posé. Quelqu'un me dit souvent que la RDC, quand tu es plus fort, tu domines sur les autres. On le voit même sur la route. À Kinshasa, généralement, les gros camions, les petites voitures laissent la voie aux gros camions. Et donc, ceux qui ont plus de moyens, ceux qui sont portés par les partis politiques, sont les plus à même de pouvoir remporter les élections. Et ces inégalités se voient souvent en période électorale. Donc, on a commencé la campagne électorale aujourd'hui. Et ça va durer un mois. On va commencer par cette première question. Suzy Bakajika, quels sont les types d'inégalités qu'on peut retrouver entre hommes et femmes, selon qu'on est homme ou femme, en pleine campagne électorale quand on est candidate?
Il n'y a pas une liste exhaustive, hein, mais je crois qu'on partirait déjà sur les barrières culturelles, le poids culturel. Ça, on ne peut pas l'ôter parce que notre société est organisée de telle sorte que la femme n'a pas le droit de prendre la parole en public. Elle est astreinte à être derrière l'homme. Et pendant la campagne électorale, voir une femme qui prend la parole pour défendre des idées, c'est pas très habituel. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que le manque de confiance de la femme elle-même. C'est-à-dire, c'est un peu lié en fait. Les deux aspects sont un peu liés. C'est que on est élevé pour ne pas prendre la parole en public. L'acteur politique, c'est le discours, d'abord. Et le discours, c'est devant une assemblée, devant des personnes, et la campagne électorale, c'est un moment où l'acteur politique, une femme acteur politique, a l'obligation de pouvoir prendre la parole devant un auditoire, devant ses futurs électeurs, dans sa circonscription, pour expliquer quel est le rôle qu'elle va jouer si ces personnes lui concèdent leur voix. Et ces deux éléments sont souvent liés, le poids de la culture, il y a le fait qu'elle n'a pas confiance en elle-même, et il y a aussi, évidemment, l'aspect juridique, donc il y a des lois qui ne sont pas... La loi sur la parité, voilà, il n'y a pas encore vraiment une application concrète de cette loi, et malheureusement, c'est en campagne électorale qui est un moment où toutes ces choses ressortent. Ça me semble être un élément aussi qui peut être un frein à l'expression de la femme. Et évidemment, il y a les violences faites aux femmes, physiques, sexuelles, morales, psychologiques. L'homme peut se présenter en bras de chemise pour battre campagne, ça ne va pas être gênant, mais une femme, elle a besoin de se couvrir au maximum parce qu'il y a le regard de la société sur elle qui fait que, en campagne électorale, elle ne peut pas se permettre n'importe quoi, même si elle est libre d'être en chemise comme moi, comme elle veut, mais c'est ça, c'est ce poids-là. Et il y a l'aspect aussi, l'influence de l'analphabétisme. C'est un élément important à prendre en compte, qui est évidemment plus répandu chez les filles, chez les femmes et les filles que chez les garçons et les hommes. Bon, je vais finir par en disant qu'il y a le manque de volonté politique vers un changement de statut. C'est que on est habitué à avoir des dirigeants hommes. C'est ça. Dans notre inconscient, on est habitué à avoir des dirigeants hommes et une femme qui vient parler, essayer de changer, de remplacer cet homme qui a toujours été là, ça passe pas. ça passe pas. Et peut-être aussi, et je, peut-être que Mme Tshibalons va nous confirmer, l'insuffisance de moyens matériels. Les partis politiques ou les regroupements ne mettent pas les mêmes moyens pour les femmes que pour les hommes. Parce qu'on part du principe que la femme, elle est là, elle fait partie du parti ou bien du mouvement politique, mais elle n'a pas autant de chance.
Alors, est-ce qu'on peut ajouter à cette liste d'autres barrières qui font en sorte que ces inégalités sont perceptibles dans notre société?
Les jeunes candidats. Voilà, Suzy disait tout à l'heure que la liste n'est pas exhaustive. La loi électorale dans notre pays a de brèches qui laissent un peu de fois perplexe. Je cite un article qui dit « Les partis politiques doivent déposer des listes en respectant la parité ». Mais cet article ne s'arrête pas là. Il y a un « toutefois » et ça annule tout en fait. Toutefois, si ces partis n'ont pas trouvé les femmes, ils peuvent déposer. Et par conséquent, tous les partis vont s'appuyer sur le « toutefois » et du coup, on aura les conséquences que nous avons. En 2006, on n'a eu que 42 femmes députées. En 2011, on n'a eu que 44 femmes députées nationales. Et on a eu 56 femmes députées provinciales en 2007. Sur 711 députés provinciaux, on n'a eu que 56 femmes députées. Ce ne sont pas des raisons liées seulement à notre pays ou à l'Afrique. Donc il ne faut pas qu'on soit complexé sur la question de l'émancipation de la femme. La toute première femme députée en France, ce n'est qu'en 61. Donc les Congos étaient indépendants d'une année et la France a eu pour la première fois une femme députée. Aujourd'hui encore, il y a deux semaines, il y a eu élection de mi-mandat aux États-Unis. C'était presque un luxe de parler des femmes qui ont été élues. Ça veut dire toute la problématique. Ce n'est pas seulement une question liée à la RDC, c'est une question effectivement générale. Au point que aux États-Unis, si Hillary était élu président, ça allait être un grand événement. Parce que ça serait pour la toute première fois. Alors que Sierra Leone a déjà eu sa première présidente femme. Aux États-Unis, ils n'en ont pas encore eu. C'est encore un luxe là chez eux. Je viens de Mbujima où j'ai formé 90 femmes candidates. Mais j'ai eu des femmes qui te disent « Oui, c'est mon mari qui a soutenu ma candidature pour que je puisse postuler. » Mais en même temps, elle te dit « Il veut que je rentre à la maison avant 18h. » Donc, elle ne peut pas prendre des contacts en marge de sa propre candidature parce qu'il y a son mari qui est en même temps jaloux alors que c'est lui-même qu'il avait poussé. Et la question qui revient effectivement de plus en plus, la question des financements. Mais il a été démontré que chaque fois qu'une femme a une parcelle de pouvoir, je crois qu'il y a un sens d'humanité qui s'installe, alors que ce n'est pas le cas pour les hommes. Donc c'est une raison vraiment pour laquelle on peut se dire il faut donner confiance aux femmes. Les femmes ne sont pas très belliqueuses, mais malheureusement les femmes... Une autre raison, les femmes ne votent pas pour les femmes. Les femmes ne croient pas aux femmes. Donc, je crois qu'il faille faire toute une campagne pour montrer à d'autres femmes les bien fondés, effectivement, de faire confiance à leur père, femme. Je sais, ça peut marcher, mais c'est un travail à temps plein, un travail à vraiment moyen et long terme. C'est pas du tic au tac, ce n'est pas juste par rapport à ces élections. Donc, il faut travailler en perspective d'autres élections.
On va prendre Mme Tshibalonza, la même question, c'est celle de savoir, est-ce que vous remarquez, vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes candidate, est-ce que vous remarquez ces inégalités-là, déjà dans votre vie politique et maintenant encore plus pendant la campagne électorale?
Ces inégalités-là existent et persistent. Les partis politiques ont tendance à privilégier les hommes. Il y a une raison que M. Eugène vient de soulever ici, la disponibilité. Compte tenu de notre contexte socioculturel, les femmes ne sont pas trop disponibles. Même nous qui sommes femmes, mariées, responsables dans nos ménages et peut-être dans la vie professionnelle, nous avons des temps limités. Chaque fois qu'on recourt à nous, on a tout le temps des raisons qui nous empêchent de participer par-ci, par-là, et ça peut même freiner les partis. Imaginez un candidat, là où il y a des candidats, hommes et femmes, on doit mettre nécessairement la priorité sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est très disponible. Et en politique, vraiment, la politique demande la disponibilité. Là, je souligne. Mais pour ce qui concerne notre parti, on tient compte de compétitivité. On tient compte vraiment des talents de chacun des candidats. Si les autorités du parti constatent que telle femme est plus active sur terrain que tel monsieur, on l'encourage et on les soutient. Et quant à la loi, je pouvais souligner que la loi doit être appliquée, la loi électorale. Les femmes sur terrain qui les violentent sont ces mêmes hommes candidats qui constatent que telle femme est très compétitive, elle est très aimée, elle a des atouts, même si elle n'a pas les moyens, ses paroles, Son discours convainc l'électorat. Voilà, en voyant des chèques créant des petits groupes pour aller contrecarrer son passage à tel ou tel autre coin ou quartier. Et ils envoient des groupes là, des violents, pour aller contrecarrer la personne. Mais si nous nous mettons à appliquer l'accord de bonne conduite, et je pense que les femmes seront bien sécurisées et les élections pourront bien se passer. Les femmes ne sont pas pour les violences. Elles ont ce sens-là d'humanisme. Et c'est ce qui les pousse à ne pas se violenter, à ne pas pratiquer la violence, à privilégier les dialogues, à privilégier les discours qui tendent au développement. Et si on applique les lois, on applique les codes de bonne conduite, je crois que ça va bien se passer.
Je vais insister sur les financements, puisqu'on dit qu'il y a une inégalité également dans l'argent disponible pour justement. Alors, d'où vous tenez-vous l'argent pour financer votre campagne?
Voilà, les financements posent des sérieux problèmes pour les femmes. Dans les ménages, les femmes, la plupart des femmes sont mariées. Dans les couples, vous savez comment ça se passe. Et quand c'est l'homme qui a besoin, il convainc facilement son partenaire femme à sortir l'argent. Et ça sort. Ou même il ne les convainc même pas. De lui-même, il peut s'en servir sans demander l'avis de sa conjointe. Mais s'il s'agit de la femme, il faut supplier. Il faut supplier. Voilà pourquoi l'autonomisation économique de la femme politique est très, très importante. Vraiment, il faut que la femme soit autonome. Et si l'homme constate que la plupart, ou bien plus de 50% du budget familial proviennent des efforts de la femme, je ne pense pas que cet homme-là peut mettre frein aux dépenses liées à la campagne. Mais si les plus de 50 proviennent de l'homme, c'est tout un problème. Donc les femmes ont ces difficultés-là, vraiment, elles sont énormes, les difficultés que les femmes traversent. Et les partis aussi politiques n'ont pas de moyens. Nous savons tous que les partis vivent des cotisations. Combien de membres du parti cotisent dans leur parti et attendent tout du parti? Étant conscient que moi, je ne cotise pas dans mon parti, comment je vais recourir aux ressources de ces partis-là pour financer ma campagne? Donc, on doit recourir à ses propres moyens. Moi, je conseillerais d'ailleurs aux femmes, avant de s'engager et de concrétiser ses ambitions, on doit d'abord avoir l'autonomie financière. Donc, avoir des moyens, avoir un bon boulot qui t'a permis d'économiser un montant un montant consistant qui te permettra de financer la campagne. Bien sûr, en recourant à son mari, en recourant à la famille, en recourant aux amis, mais tu dois d'abord avoir toi-même les 80% des moyens financiers dont on aura besoin. Et ceux qui n'en ont pas, la plupart des femmes connaissent nos salaires, qui ne sont pas vraiment à épargner. Quand on gagne, on a tendance à tout consommer parce que c'est pas décent. Donc, nous avons des sérieux problèmes. Moi-même, je ne suis pas épargnée. Nous avons des sérieux problèmes pour financer notre campagne. Mais avec les méthodes apprises au cours de nos formations, nous avons appris comment il faut convaincre les électeurs à travers les bons projets de développement, les bonnes manières, nos comportements. Donc, nous avons toutes ces stratégies-là et c'est ce que nous sommes en train d'utiliser malgré ces problèmes financiers qui se posent en tant que candidat.
Alors, je vais revenir à Eugène, mais je prends d'abord Suzy. Eu égard à la présentation faite par Madame, ces tableaux où on voit très bien que l'argent de la campagne provient du ménage et parfois c'est compliqué justement d'avoir cet argent. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les jeux sont pipé d'avance et qu'on risque à la fin de cette campagne justement de se retrouver face, on a des candidats qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, portés par la famille, portés par les amis, portés par le parti, portés aussi on peut dire par des moyens peu légaux. Est-ce qu'on va dire que les jeux sont déjà faits et que les femmes sont déjà perdantes?
Je ne le crois pas, je suis déjà quelqu'un de naturellement optimiste. On ne devient pas candidat, on n'aspire pas à représenter sa communauté si on n'est pas préparé. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient en une journée. Et partons par exemple de ce que j'ai évoqué au départ, il y a déjà beaucoup de freins qui font que tu dois faire une analyse du contexte dans lequel tu devras évoluer toi en tant qu'acteur politique. Et en tant que femme, tu dois tenir compte de ces éléments-là. Et ce qu'on présente aujourd'hui comme des faiblesses peuvent être des atouts. Mais si tu sais, si la femme politique sait arriver à retourner la situation. J'ai bien aimé ce que Jeanne a dit. Les femmes ne votent pas pour les femmes. Et alors, on se pose la question de savoir pourquoi. On n'a jamais répondu vraiment, réellement à cette question. Pourquoi une femme ne donne pas sa voix à une femme? Je crois que la clé passe par là. Je voudrais revenir sur un autre élément que j'ai évoqué, c'est très grave parce que je suis quelqu'un des médias, c'est l'accès aux médias aussi. Les journalistes, femmes ou hommes, ne tendent pas naturellement son micro à une femme. Surtout s'il s'agit de donner un avis sur les questions politiques. On a eu la semaine dernière un grand débat sur la question de Genève et tout ça. Combien de journalistes, en tout cas des hommes des médias ou femmes des médias, sont allés voir des femmes acteurs politiques pour s'exprimer là-dessus? C'est aussi un problème. Je pense que si tu veux avoir la voix de ces femmes-là, il faut arriver à avoir accès à elles. Et les médias semblent être vraiment un élément très important. Mais aujourd'hui, on a tendance, je crois que nous tous, on est un peu tombés dans ce piège-là. Quand on veut parler des questions politiques en tant que journaliste, tu penses tout de suite à un acteur, à un homme politique. On ne pense pas à une femme politique. Sur les questions, je reviens à l'exemple de Genève. J'ai parcouru un peu, il y a très peu de femmes qui sont exprimées, tout simplement parce qu'on ne leur a pas tendu non plus le micro naturellement.
Déjà, ça, parmi les sept, il n'y avait aucune femme.
Voilà, déjà, il y avait déjà un petit souci là-dessus. Et déjà, partant de ça, on n'a même pas demandé l'avis d'une femme qui s'exprime sur ce qui s'est passé à Genève. Je crois que c'est un élément à prendre en compte. Et moi, je considère que, pour répondre vraiment à ta question, je considère que les jeux ne sont pas faits parce que justement, les femmes il y a 52% de femmes électeurs aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt comment tu crées une dynamique pour emmener ces femmes-là à voter pour une femme. Et je crois que c'est ça le problème.
Vous avez suivi, formé ces femmes. Vous les avez capacitées à l'approche de la campagne électorale. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a des moyens qui peuvent être mis, des astuces, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour justement qu'on se retrouve au soir du 22 décembre avec de femmes candidates capables justement qui ont concouru à armes égales avec les hommes, pourquoi pas aussi un peu plus, avec un peu plus de vigueur que les hommes.
J'avoue que c'est une question assez complexe. Ça part effectivement des a priori que chaque être humain a, et particulièrement les hommes vis-à-vis des femmes. C'est vrai que je vais dire qu'on ne répond pas à des préjugés par des préjugés. Donc les femmes devraient d'abord commencer par enlever en tête que les hommes sont leurs ennemis. Donc, parce que s'ils partent déjà avec ça, du coup, en fait, ils ne pourront pas obtenir quelque chose de si consistant auprès des hommes. Je vais dire ceci. Dans l'approche de NDI pour laquelle je travaillais pendant cette période avec l'approche de capacité des femmes, l'idée c'est que en amont, faire une sorte de plaidoyer vers le parti politique et les dirigeants pour leur montrer qu'il est important d'associer la femme et de lui donner vraiment sa place, d'être prêt à accepter qu'une femme puisse avoir une place dans la prise de décision politique. Ça, c'est en amont. Mais en aval, il faut capaciter cette femme parce qu'il y a des questions qu'on nous a posées. Nous étions à plus d'un siège d'un parti politique pour rencontrer les dirigeants de parti. Mais on nous dit, mais vous nous parlez des femmes, mais où sont ces femmes? C'est comme ça que NDI, par exemple, avait fait ce qu'on appelle liste malaïka. Trouver des femmes qui n'étaient pas, même pas dans des partis politiques, mais qui ont des ambitions. Les identifier, les former, leur donner des atouts et donner ces listes aux partis politiques. Mais malheureusement, les partis n'ont même pas pris des femmes dans ces listes parce qu'ils voulaient beaucoup plus faire confiance aux femmes qui ont milité dans leur parti, même si ces femmes n'existaient pas selon leurs propres propos. Alors l'idée, c'est aussi de ne pas donner raison à ces hommes que je ne vais pas traiter de machos. Donc, c'est-à-dire renforcer ces femmes, leur donner des atouts pour qu'elles répondent présent, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bonaparte qui dit l'ambition dont on n'a pas des compétences est un crime. Parce qu'une chose est de vouloir que les femmes, effectivement, soient nombreuses dans les institutions, dans la prise des décisions, mais il faille qu'ils puissent avoir ces compétences. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, on ne peut pas juste faire du remplissage. C'est pour cela, moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette idée de parité. Parce que c'est une sorte d'arnaque à double tour.
tantôt pour les hommes, tantôt pour les femmes. Parce que dites-moi, un jour, vous avez besoin de 10 personnes compétentes pour remplir des fonctions. Vous en avez 8 femmes et 2 hommes seulement. Vous allez chercher la parité, 5 femmes et 5 hommes. Ça sera carrément arnaquer les femmes. C'est ce que les femmes n'ont jamais compris, en fait, avec cette histoire de parité. Parce que la parité réduit carrément à 50-50. C'est ça l'idée qui est derrière. C'est-à-dire, le jour qu'on aura plus de femmes compétentes que les hommes, on va réduire, on va sacrifier 3 femmes pour 3 hommes idiots, excusez-moi le terme, parce qu'en fait, on veut respecter la parité. Donc, dans notre approche, il fallait effectivement renforcer en capacité. Et pour le cas, parce que nous sommes en train de parler de la campagne électorale, nous avons aidé les femmes à comment réussir une campagne avec un petit budget. Parce que, en fait, une chose est de faire une sorte de diagnostic, mais il faudrait trouver une sorte de thérapie appropriée. Premièrement, les élections ne se gagnent pas le même jour. Madame devrait prendre en compte, effectivement, l'environnement dans lequel elle est. Elle doit se dire qu'on ne postule pas en Ngaliema pour séduire les électeurs des Lingualas. Donc, tu dois effectivement bâtir ta relation entre... Parce que les élections, c'est carrément un rendez-vous, j'allais dire, d'amour entre les candidats, la candidate et l'électorat. Et l'électorat, en fait, on ne commence pas à lui faire la cour pendant les élections. Donc, il faut bâtir une relation. Et cette relation sera définie par rapport aux a priori que vous-même, vous avez. Si vous avez habitué les gens à Apé Satalaté, ils ne vous définiront que par Apé Satalaté. Donc c'est clair. Donc quand vous viendrez avec une autre approche, eux ils ne sont pas là. Parce que vous les avez habitués à résoudre leurs problèmes par Apé Satalaté. Donc il faut bâtir cette relation. Mais aussi il faut connaître les règles du jeu. Souvent les gens vont aux élections sans connaître les règles du jeu. Même au monde. De la même façon que les systèmes politiques congolais et ce n'est pas de la même façon que les systèmes politiques sud-africains. Ce n'est pas le même système politique aux États-Unis. Donc, il faut connaître les règles de jeu. Tu ne joues pas au basket comme tu joues au football. Au foot, on joue à 10 avec un gardien. Au rugby, on joue à 15. Au basket, on joue à 5. Mais au basket, tu peux sortir et rentrer. Donc, tu dois connaître ta circonscription. Il y a 3 connaissances très importantes à faire. 1, connaître la circonscription. 2, connaître les règles qui régissent la circonscription. Et puis, il y a la 3e connaissance qui est double. C'est connaître et connaître ses adversaires. Parce que pourquoi tu dois connaître les adversaires? Tu ne peux pas battre campagne en ignorant les gens qui cherchent la même chose que toi. Donc tu dois connaître. Les connaître, c'est quoi? C'est connaître leurs forces, leurs faiblesses. Avec sincérité. Connaître ses propres forces et ses propres faiblesses.
Voilà, comment se battre face aux candidats et aux personnes qui ont plus de moyens, plus de capacités que vous. Alors le public, des questions. On va prendre la première question à droite.
Nous avions dernièrement avec le PNUD eu à sensibiliser les femmes candidates comment elles pouvaient réussir leur campagne. Et pendant ce temps, nous, la presse, on était là, on assistait. Et il y a un moment où on devait quand même passer par des interviews. Un auditoire à 100% femmes. Mais c'était difficile pour trouver 2 femmes qui pouvaient intervenir devant notre micro et pour répondre à des questions. Et moi, je trouve déjà que dire que c'est la presse qui ne donne pas le temps à ces femmes, c'est peut-être faux parce que ces femmes-là, elles-mêmes, comprenaient déjà que c'est une candidate. Et nous sommes pendant la période de campagne et doit battre campagne devant des milliers de personnes, mais devant un journaliste, devant 2 journalistes, elle n'a pas le courage de parler. Donc moi, je trouve déjà que donner cette responsabilité à la presse, c'est vraiment faux.
Christian Chabantou, jeune engagé, journaliste aussi. Au fait, je suis suppléant d'une dame qui est candidate, au fait. J'ai dirigé une étude l'année passée sur le profil idéal d'un candidat député. Et sur plusieurs zones, je me suis rendu compte que tout le monde voyait un député comme un homme de 40 à 50 ans, habillé en costume. Ça, c'est les constructions sociales qu'on n'a pas du tout changées. Alors, on se retrouve sur un terrain où ces constructions n'ont pas été anéanties. Mais on est en train d'essayer de créer des contours pour créer une représentativité de la femme, alors qu'en réalité, nous savons que lorsque nous vivons en société, nous n'imaginons pas ces choses-là. Et voilà, pour conclure, je ne sais pas si je peux faire une suggestion. Par rapport aux conclusions de l'étude, ce que je peux demander aux femmes, c'est d'amener la campagne sur un terrain émotionnel. Sur un terrain rationnel, ça va être compliqué parce que les gens sont déjà ancrés dans leur position.
Kazadi, pour le compte de la RTVS1. Madame, excusez-moi, combien de fois vous avez eu à intervenir à la radio, soit à la télé? Et la deuxième, madame, est-ce la peur en vous? Vous ne pensez pas que c'est aussi quelque chose qui va vous empêcher de gagner ou bien de remporter les élections?
Je sais, nous devons changer quelque part. Nous voulons un changement, il faut que ça parte partout. Si nous devons continuer avec des émotions, une femme qui a quelque chose de rationnel et qui s'abstient de le faire, parce qu'elle pense que si elle le fait, elle n'aura pas le fait escompté. Pourtant, ces conseils-là, on ne les donnerait pas à un homme. Ça aussi, c'est la même chose que nous sommes en train de dire, que Mme Suzy a dit, que c'était nous souffrons par rapport au poids de la culture et que nous continuons à entretenir quand bien même nous les connaissons. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous supposons que nous sommes là parce que nous avons voulu soit apprendre plus, soit nous nous connaissons déjà et que nous voulons que notre pays sorte de là où nous sommes. Mais si nous devons continuer à faire ce qu'autrefois on a fait, qui a plongé le pays ou qui continue à plonger les candidates, moi je pense qu'il est temps que tout le monde aille de l'avant et même les femmes, au lieu d'utiliser les émotions, utilisez plutôt les rationnels. Si vous pensez que vous pouvez dans la rationalité, allez-y. Parce que ce que nous sommes en train de dénoncer ici, c'est que les femmes se sous-estiment. Une femme qui pense qu'elle doit travailler selon les émotions et non selon la rationalité, ça déjà, elle se sous-estime parce qu'un homme à ses côtés ferait la rationalité et aura son électorat pour un.
Faire, c'est qu'on va regrouper toutes les interventions et on va faire un tour de table. On commence par Suzy et ensuite on va prendre Eugène et ensuite. Alors on signale également la présence de Madame Nadine Mangambou qui est candidate députée nationale à Mbujimayi pour le compte de l'UDPS qui va également participer à cette dernière partie de ces échanges. Suzy, s'il vous plaît.
Je voudrais inviter les journalistes qui sont là à se rapprocher de l'Union congolaise des femmes des médias qui tient un monitoring régulier de temps de parole des femmes et des hommes. Et ça, c'est des faits. On est journaliste. Comment ?
80 contre 20, c'est la
dernière. Ce sont des faits. Ce sont des faits et c'est pas. C'est... Moi, je suis journaliste autant que vous, donc je ne peux pas m'aventurer à raconter des choses qui ne sont pas correctes. Et les faits sont là, malheureusement, sous base de ce monitoring-là. Et ça, ce n'est pas simplement des questions électorales, c'est des questions de tous les jours. Quand il s'agit de panier de la ménagère, on pose la question à la femme. Le journaliste va interroger la femme. Dans nos rédactions, on sait comment ça fonctionne. Mais quand il s'agit de se dire est-ce que l'UDPS a trahi ou quoi, on pose directement. Automatiquement, le rédac en chef, c'est il te dit, va interroger telle personne. C'est ça la réalité. Et j'ai prononcé cette phrase exprès parce que j'ai voulu, en tant que journaliste moi-même et en tant que en face de mes confrères, de pouvoir, essayer de ressortir justement le sentiment que tu as d'une accusation gratuite qui ne l'est pas. Et ça, c'est une remarque qu'on le fait à nous-mêmes. Nous avons ce réflexe-là de toujours aller vers les hommes quand il s'agit des questions politiques.
Ok.
Voilà. Et je pense que j'ai repris les deux éléments que je voulais. Donc il y a l'étude, et ce serait intéressant que vous puissiez vous en procurer. C'est vraiment, c'est assez éloquent parce que ça présente. Moi-même, quand je l'ai lu la première fois, j'étais assez choqué. Et je n'ai pas réalisé que dans ma pratique en tant que journaliste, j'avais ce réflexe-là. Les questions panier de la ménagère, questions de santé, les questions de nutrition, tout ça, on va en chercher une femme. Mais quand il s'agit des questions politiques, on cherche un homme.
D'accord. Super, merci.
Okay. La petite réaction que je vais faire, c'est en fait chercher tant soit peu à départager Christian, Jocelyne et le monsieur. Parce qu'en fait, ils se sont contredits à trois. Christian appuyait le fait que les femmes devraient battre campagne sur le créneau émotionnel qui est rationnel. Alors lui, il contredisait ça en disant que quand une femme vient, donc elle dit là où il y a 15 hommes, qu'il a appelé garçon, la femme dit je suis votre maman. Et puis Jocelyne qui était catégorique parce qu'elle pense que c'est vraiment diminuer la femme que de penser qu'elle devrait continuer à prendre les créneaux. La campagne électorale n'est pas du prêt-à-porter. Il faut vraiment faire attention. On ne peut pas aller avec des a priori. On se dit carrément de façon tranchée que les femmes iront seulement rationnellement ou que les femmes iront seulement émotionnellement. La campagne s'est faite par rapport à la circonscription, par rapport au type d'électeurs que vous avez. J'ai fait un atelier avec des femmes politiques et j'ai écrit au tableau les mots femmes pour que chacune me donne ce qu'elle pensait, la signification. J'ai eu plusieurs définitions qui m'ont surpris. Après, j'ai ajouté femmes politiques. Il y avait des femmes qui ont même dit... Donc, j'ai d'abord mis le mot politique. On m'a donné toutes les significations. Je voulais voir l'hypertextualité de ces mots. Mais quand j'ai combiné les deux mots, femme politique, donc il y en a qui pensaient que femme politique veut dire
parce qu'elles avaient dit « politique, c'est l'art de mentir », par exemple. Donc, femme politique, c'est une femme qui a l'art de mentir. Alors, si tu vas dire aux électeurs « votez-moi parce que je suis une femme politique », donc, si eux, ils définissent ça en tête, que ça veut dire femme qui a l'art de mentir, donc tu n'as pas des élections. Donc, il y a des endroits où tu peux dire « je suis votre mère », ça passe. Il y a des endroits où tu le dis, on trouve que c'est terre à terre. Il y a toujours trois créneaux sur lesquels on nage quand on fait une campagne. Il y a ce qu'on appelle les ethos. C'est la personnalité de la personne même, du candidat. Est-ce que tu es une personne crédible? Est-ce que tu as bâti une sorte de légende avec l'électorat? Ces ethos est lié à tes compétences, mais lié aussi à ton histoire, ta moralité, ta personnalité dans l'environnement. Il y a la deuxième dimension, ce qu'on appelle le pathos. Le pathos, c'est l'émotion, effectivement, tel que Christian le disait ici. Même les hommes peuvent recourir à l'émotion. Et l'émotion ici, c'est ta capacité à transmettre l'émotion. Ce n'est pas toi qui dois être émotionnel. Comment tu transmets l'émotion dans les électeurs pour qu'ils puissent être touchés? Deux personnes peuvent dire la même chose, mais les dire différemment. L'autre touche. J'ai donné un exemple, Nadine a fait partie de mes ateliers. Je donnais un exemple, quelqu'un qui vient, il vous dit, bon, je crois que dans notre programme, nous devons mettre en place les bus scolaires. Ça peut ne pas accrocher. Mais quelqu'un qui vient dans son discours, il dit, imaginez-vous à 12 heures, en plein midi, avec ce soleil accablant, deux jeunes gens, un petit de 9 ans qui tient sa petite sœur de 7 ans en uniforme, cherchant à traverser devant ce chauffeur fou, enragé, qui ne laisse pas la voie. Et après avoir dit ça, voilà pourquoi nous pensons qu'il est important que nous puissions avoir des bus scolaires. Ça touchait d'abord l'émotion des gens, et puis après, tu as posé ton problème. Mais le troisième créneau, c'est le logos. C'est ta rationalité, c'est ta capacité à démontrer 1 plus 1 égale 2, ta capacité à démontrer les choses par preuve, par neuf. C'est comme ça que vous avez entendu des fois des gens dire « Ah, Bemba, on dirait, il a avalé une calculatrice. » Parce que les domaines des calculs, un peu comme Christian, domaine des calculs, Christian, Alkitenge, Bemba, c'est leur domaine. Il y a quelqu'un qui connaît les dates comme Sarkozy, tu vois, c'est un créneau, ça c'est les logos. Donc, tous les trois peuvent se combiner, mais il n'y a pas du prêt-à-porter. Donc, il faut savoir juste comment manipuler cela et atteindre l'objectif.
Madame, mais pourquoi avez-vous peur? La question. Pourquoi vous ne vous présentez pas face aux journalistes?
Pour moi, en tout cas, je n'ai pas peur de me présenter devant les journalistes, comme tu les confirmes. Et les femmes qui ont peur de les faire, comme la dame l'a dit, c'est par rapport au coupage. La fois passée, il y a une dame journaliste qui m'invitait dans une chaîne pour aller présenter une émission ou bien, comment elle a appelé ça, un portrait. Elle m'a demandé, je lui ai dit, ça demande combien? Quand elle m'a dit les montages, j'ai commencé à calculer, je me suis dit non, ça peut m'acheter 5 douzaines de polos. J'ai dit non. L'émission là n'est pas importante pour moi maintenant. Je préfère acheter les polos. Vous comprenez? Les femmes, si elles ont peur des médias, c'est par rapport au coupage. Vous avez trouvé la réponse. Souvent, nous fuyons. Beaucoup de journalistes nous contactent. C'est pas que les femmes ont peur. C'est pas que les femmes n'ont rien à dire ou bien elles ne savent pas s'exprimer. C'est parce qu'elles n'ont pas de moyens. Pour nous faire valoir, malgré la faiblesse financière, nous essayons de faire montrer à la population les élections. Les élections 2006, 2011, comment elles se sont déroulées. Nous essayons d'expliquer pourquoi, la raison qui a fait que les électeurs ne puissent pas en bénéficier. Et maintenant, nous faisons appel à leur bon sens. Merci.
C'est-à-dire la prochaine fois que vous tenterez d'interroger madame. Donc l'argent.
Mais nous essayons de nous comprendre, quoi. Et les journalistes comprennent. Hein. Des fois, ils aussi exagèrent.
Imaginez que l'argent de coupage peut acheter des t-shirts, des polos, pour aider justement. D'accord. Ah, je prends Suzy, ensuite je vais prendre madame et puis on va.
La campagne électorale est axée sur votez-moi, voici mon numéro, retenez mon numéro, allez, le 23 décembre, c'est moi, c'est mon numéro. C'est ça, c'est le message essentiel. Qu'est-ce qui se passe le jour du vote? Le jour du vote, la femme, elle se réveille le matin, elle se met à faire le ménage. C'est pas très sûr qu'à 17h, avant la fermeture du bureau de vote, qu'elle aille voter. Alors il faut que dans le discours, inclure dans le discours de campagne, le fait que de la motiver pour qu'elle organise sa journée différemment le jour du vote. Ça c'est des éléments que nous avons qui ne sont pas simplement une caractéristique du Congo, et c'est assez répandu. Exactement. La femme, elle va commencer à faire le ménage, l'homme est déjà allé voter. Ou peut-être après, généralement on vote ici le dimanche, après l'église, il va voter, il discute avec les amis, politiques et tout ça. Mais la femme, elle, entre-temps, elle assure, elle s'occupe des enfants, elle assure son ménage, elle nettoie sa maison, et c'est seulement vers 16h, 15h, et vous verrez d'ailleurs, vous pourrez le constater encore, l'affluence des femmes, elle est soit très tôt le matin, ça dépend des coins, mais en milieu rural, si vous avez une circonscription qui est 80%, ce qui est situé à 80% dans un milieu rural, mais là, cette femme-là, il faut avoir aussi une approche dans son discours, de lui parler pour la motiver, pour qu'elle se dise, moi je vais donner ma voix à Madame Tshibalonza, malgré que j'ai tes tâches ménagères à faire, mais je vais aller donner ma voix, pour pas que son mari lui dise, il faut que tu votes mon candidat, sinon tu auras des soucis ce soir à la maison.
Merci.
Dans ces échanges par Madame Nadine Mangambou, candidate députée nationale pour l'UDPS en Mbujimayi, est-ce que c'est difficile d'être candidate par rapport aux hommes, par rapport aux candidats, particulièrement en Mbujimayi?
L'expérience que j'ai vécue, ou que je suis en train de vivre, est que nous femmes, juste pour compléter madame, on a un problème par rapport aux réalités de nos partis politiques. Généralement, quand nous sommes dans les partis politiques, on n'est pas très mieux informés par rapport aux questions des leurs. Alors, par rapport à ça, on se retrouve parfois en train de fuir nous-mêmes, les journalistes, parce qu'on ne maîtrise pas la vraie direction du parti. Et les réelles difficultés de la base qui est censée vous soutenir. C'est ça la réalité que nous vivons à l'intérieur en Mbujimayi.
Mais comment vous faites justement pour arriver à vous mettre dans une position d'être élu?
Maintenant, là, ça dépend de chaque candidate. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis dans un parti qui est le mien, l'UDPS, mais. J'ai une structure qui m'a permis d'être avec ces gens, les électeurs. J'ai travaillé avec pendant des années. Que quand je vais vers les électeurs, je ne vais pas seulement avec le discours de mon parti. C'est par rapport à ce que j'ai posé comme acte tout au long de mon parcours. Donc il y a ça là que j'approche. Donc ils me supportent, pas parce que seulement je suis au parti, mais parce que j'ai toujours travaillé avec eux et je suis avec eux.
Une question qui a été posée ici également à Madame Tshibalonza, d'où vous viennent les fonds pour battre campagne?
Moi personnellement, ça dépend. Vous savez, nous on est dans un parti où la majorité n'ont pas d'emploi. Moi je travaille. C'est un projet que j'avais depuis des années et je m'étais préparée. Donc par rapport aux questions financières, je ne peux pas vous. Je ne pourrais pas rencontrer tellement de difficultés quant à ça.
Vous estimez qu'il y a une différence selon qu'on est une femme ou selon qu'on est un homme sur le plan financier pour battre campagne?
Il n'y a pas de différence parce que dès lors que nous sommes tous... Bon, quand nous cherchons la parité, c'est pour être traité d'égal à égal. Donc, quand la femme travaille, elle a le même revenu que l'homme, que si elle doit se préparer, faire son projet, son budget par rapport à sa campagne, elle le fait et elle le fera de la même manière que l'homme. Aussi le faire, donc il n'y a pas de différence par rapport à ça.
Donc là on a deux personnalités différentes, deux stratégies différentes, deux partis différents, deux électorats différents, je suppose également, et qui, comme l'a dit Jeune, ça dépend justement de la stratégie qu'on met en place quand on connaît son électorat, on connaît sa base, pour parler comme certaines personnes, il faut connaître sa base. Alors, on va prendre la dernière série de questions et puis on va clôturer cette session.
Moi, c'est Bibish Mungungu de la Référence Plus. Ma question, je la pose à Madame Nadine. Madame Nadine, vous avez dit tout à l'heure là, vous avez les difficultés de connaître la base. Mais moi, je me demande, avant d'aller, par exemple, à la campagne électorale, il faut d'abord, il y a des préalables. Il faut d'abord former les témoins, ces témoins qui vont vous représenter dans des bureaux de vote. Il faut aussi sensibiliser. Comment vous avez fait avec vos témoins, avec vos électeurs, votre base?
Tante Yasakata du journal La Tempête des Tropiques. Est-ce que les femmes qui viennent postuler se préparent? Ou bien elles se réveillent d'un matin là, pouf, je suis candidate?
Allô, Terumbe Daniel pour le compte de Sakola.info. Je pose ma question à Eugène Kandolo, qui est coach en communication politique. Nous sommes dans une société où le pouvoir est en 70% l'apanage des hommes. À ce moment de la campagne électorale, quel genre de communication politique qu'une femme candidate peut adresser à ses électeurs pour bénéficier de leur confiance?
Je suis Gino de la radio Top Congo FM et puis de notre média en ligne. Je n'ai pas vraiment une question. Je n'ai pas été d'accord avec ce qui a été dit ici. C'est vrai, il y a un problème de moyens, les femmes les connaissent. Mais il y a un problème, quand les femmes n'interviennent pas dans les médias, ce n'est pas par rapport aux moyens. En tout cas, là, je mets ma main à couper pour dire que ce n'est pas par rapport aux moyens. Les femmes ont peur de s'assumer. Elles ont peur d'assumer les différentes déclarations qu'elles vont faire par rapport à leur regroupement politique ou parti politique ou face à un autre candidat qui est son adversaire. Non, ce n'est pas par rapport aux moyens, parce qu'à chaque fois nous tendons des micros aux femmes, elles se réservent toujours. Elles n'aiment pas parler. On se comprend pas, on ne comprend jamais pourquoi. Même au Parlement, il n'y a que quelques femmes, je compterai même 4 ou 5. Qui parlent régulièrement, mais d'autres femmes ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. À chaque fois quand vous lui tendez le micro, non, je n'ai rien à dire. S'il y avait des répercussions politiques, par exemple sur le plan politique, pourquoi elles se défendent au Parlement? Pourquoi elles se défendent au niveau des assemblées provinciales? Les femmes doivent aujourd'hui savoir que nous cherchons la parité, mais nous devons aussi défendre cette parité. Merci. C'est-à-dire, allez-y. N'ayons pas peur, parce que vous avez peur de quoi? Quand vous dites quelque chose, qui va vous tuer? Parce que l'homme l'a dit, personne ne l'a tué. Vous, la femme, quand vous allez le dire, qui va vous tuer?
Angèle Paca de la radio Sangomalamo. Je voulais juste appuyer ce que Dino a dit. Il y a une consoeur qui est candidate. Je lui dis, la campagne commence à minuit. Je t'enregistre et demain, je balance l'émission. Elle ne va pas payer. Elle me dit, maman, j'ai l'attente que je puisse avoir le mot d'ordre du parti. Et pourquoi elle a refusé, comme l'autre a dit? Je ne lui ai pas demandé le coupage.
Christiane Ekambo, je suis éditrice du journal des Nations.net. Il est vrai que la femme est économiquement pauvre. Et en cela, elle a d'autres priorités que faire la politique. Je me dis qu'elle doit prendre du temps pour se préparer. Il y en a une ici qui a dit qu'on a une femme qui est candidate à l'élection présidentielle. C'est vrai, on a été toutes distraites. On a été surpris de voir qu'il y avait une femme. Mais qu'est-ce que les femmes ont fait pour soutenir celle-là? Et qu'est-ce qu'elle-même elle a fait pour venir auprès de femmes? On est 42, j'ai dit ici qu'on est à 48% d'enrôlés des femmes. C'est-à-dire que si elle mobilisait toutes les femmes pour elle seule, elle pourra en avoir, même si on compte celles qui ne vont pas aller voter au scrutin, on pourrait avoir même 30% au moment où les voix des hommes sont dispersées. On a un autre problème, un grand problème, c'est qu'il n'y a pas de femmes qui sont fondatrices des partis politiques. Alors les partis politiques qui existent appartiennent aux hommes. Et les hommes veulent bien garder les pouvoirs eux-mêmes. Les femmes, maintenant on a encore un autre problème qui s'ajoute, ce sont les femmes qui sont dans ces partis politiques. Donc les femmes, nous devons prendre du temps pour nous sensibiliser, savoir que si nous voulons qu'une femme soit là, nous ne devons faire que, c'est-à-dire ne même pas entrer dans des partis politiques. On reste des indépendantes et nous allons faire notre plateforme à la fin pour ne voter que femmes.
On va clôturer. Vous allez ramasser toutes les interventions et vous donner votre opinion par rapport à cela. Donc on commence pour cette fois-ci. On va commencer par Madame Nadine. Donc vous ramassez un peu tout et puis vous clôturez et puis on va terminer.
Par rapport à la question de finance du foyer, quand la campagne est financée par le couple. C'est vrai que quand déjà une organisation où vous êtes en train de monter un projet, vous le faites à deux, donc vous savez les conséquences qui vous attendent. Vous savez que quand vous allez dans une campagne, c'est vrai que le premier sentiment, le premier besoin, les résultats que nous voulons, c'est le résultat positif, c'est la réussite. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a l'échec. Donc l'échec, c'est dans la manière où vous allez utiliser ce que vous aviez mobilisé ensemble dans votre foyer, qui va faire à ce que vous réussissez. Et quand vous avez l'échec, c'est que vous n'aviez pas mieux travaillé et que le couple, vous allez vous soutenir dans votre échec. Les femmes avaient de réserves parce qu'elles n'avaient pas, elles ne sont pas le plus souvent informer par rapport aux questions stratégiques du parti. C'est ça ce que moi j'ai dit bien avant. Alors, par rapport à ça, c'est que le parti politique, qui est comme le nôtre, qui est le nôtre, il y a le président qui donne la vision, il y a le secrétaire général qui retransmet dans la gestion quotidienne. Ça, cette hiérarchie doit se respecter. C'est pas parce qu'on est femme qu'on fera autrement. Même les hommes qui sont au parti sont censés respecter cela. Et c'est ce qui nous régit tous dans une organisation. Sinon, ça sera du désordre.
Madame Immaculée.
Par rapport aux stratégies politiques des partis politiques, il y a des chargés de communication des partis. Ce n'est pas nécessairement les femmes telles qu'elles sont dans les partis. Comme elle est devant un journaliste, elle doit maintenant commencer à dire du n'importe quoi. Non. Chaque tâche est réservée à celui qui l'a fait. Et nous avons des structures bien précises. Chacun a sa tâche au niveau du parti et sa fonction.
Et jeune Kandoulou.
Voilà. C'est vrai. Il y a une étude, c'est vrai que ce n'est pas ici, aux États-Unis, une étude qui montre que sur 10 peurs, la peur de prendre parole en public vient en première position, alors que la peur de mourir vient en septième position. Donc, c'est dire tout l'enjeu de prendre parole en public, ce n'est pas aussi facile. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que, quand on parle de la communication politique, il n'y a pas que le passage dans la presse. Il faut vraiment faire la nuance. Déjà que communiquer, on communique 70% non verbal et 30% seulement verbal. Donc la communication, c'est tout un tout, il y a tout un enjeu. Et c'est là que je veux ouvrir la brèche par rapport à la question que l'on m'a posée par Daniel. Quel type de communication politique les femmes devraient avoir dans le contexte électoral? Les contextes électoraux, on n'a pas besoin d'être prophète pour voir la question primordiale de la population. C'est le social. Il faut étudier les contextes électoraux pour apporter une offre, une solution par rapport aux questions. La communication politique doit être orientée vers le social. Et en parlant de social, les femmes sont vraiment mieux placées pour porter la question du social. Mais il faut faire attention, tenir toujours compte du discours, mais aussi des communications non verbales. Parce que tu ne peux pas venir parler aux gens de social. Je crois que Nadine n'ira pas en campagne avec ses bijoux en or et ces trucs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait inadéquation entre ce que tu dis et ce que tu représentes. Quand je forme les candidats, je leur dis, vous n'êtes pas obligé d'aller. Si tu n'es pas convaincu de passer à une émission, tu peux reporter ou bien tu peux refuser. Donc, c'est un libre arbitre, l'arbitre. Cela vaut pour les hommes et pour les femmes. Ça ne sert à rien de te précipiter, d'aller et de raconter des bêtises. Parce que tu veux communiquer. Combien de fois des gens à l'affût des scoops, parce qu'il n'y a pas que les journalistes qui cherchent les scoops, les politiques aussi cherchent les scoops. Il ne faut pas juste communiquer pour communiquer, il faut savoir quand et comment, pourquoi communiquer, c'est très important.
Nous avons été élevés à ne pas prendre la parole devant les hommes. Et ça, c'est un réel problème. Et ça s'est traduit dans nos campagnes électorales, c'est traduit dans tous les milieux où il y a une femme. Et même si elle a des bonnes idées, même dans le milieu professionnel, remarquez, on tient une réunion avec des hommes, un brainstorming comme ça, comme une tempête de cerveau, où tout le monde doit s'exprimer. Vous verrez que les premières personnes à prendre la parole sont les hommes, parce que c'est inconsciemment qu'on est élevé comme ça. Et ça, je crois que c'est une des batailles pour les futures candidates. C'est que si avoir des bonnes idées, comme l'a peut-être dit Gino, en disant qu'il faut ramener ces femmes-là, à les former, les ramener avec vous, mais il faut aussi tenir compte du fait que vous ramenez ces femmes-là avec tout le problème, avec tout le poids culturel, et ça, c'est une question qu'on ne résout pas lors d'une campagne électorale. Exactement. C'est-à-dire que c'est il y a une formation, c'est tout un processus. Exactement. Et moi, je voudrais terminer par là en disant que c'est vraiment un combat de tous les jours. La manière même que nous élevons nos filles, vous êtes candidate, mais vous êtes d'abord mère. Comment vous élevez les filles? Est-ce que vous les élevez de la même façon que les garçons? Est-ce que la fille, chez vous, dans la maison, peut prendre la parole facilement face à ses frères? Ou c'est d'abord le grand frère qui parle toujours? Et ça, je crois que ça, c'est des choses qui sont assez insidieuses. Mais ça fait partie de notre culture qu'on peut commencer déjà à modifier pour que dans quelques années, qu'on ait des femmes comme en France, où il y a eu Ségolène Royal qui a pu s'opposer à un candidat pas simple, qui est Sarkozy, qui a tenu quand même un discours. C'est parce que je crois qu'elle a tout un bagage culturel différent. J'ai pas dit que la base qui se passe là-bas est bon. On peut pas tout prendre. Et moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que le jour où on aura un président de la République femme, il y aura beaucoup de choses qui vont changer.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nadine Mangambou, de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes candidate sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Et merci également Madame Immaculée Chibalonza, vous êtes candidate provinciale en Galima ici à Kinshasa. Eugène Kandolo, coach en communication politique également. Si on doit citer toutes les casquettes, ce sera très compliqué. Et merci infiniment Suzy Bakajika pour votre expertise et votre temps. Et merci à vous également d'être venu aujourd'hui pour cette activité. Je rappelle juste que c'est une activité qui est organisée régulièrement par Internews à travers notamment Vox Congo qui est l'une de ses initiatives, qui est un programme radio qui est diffusé dans une dizaine de radios à Kinshasa, également à l'intérieur du pays, et qui fait la promotion du débat démocratique. Et pour aujourd'hui particulièrement, la question était sur comment les femmes candidates arrivent, peuvent-elles parvenir à surmonter les inégalités hommes-femmes pendant la campagne électorale. Et l'auditoire est composé essentiellement de journalistes pour justement nous faire voir, nous journalistes, toute la problématique qui est liée justement à toutes ces difficultés aux femmes, non seulement d'entrer sur la scène politique, mais aussi et surtout d'exister et de se battre à armes égales avec les hommes et parfois aussi avec certaines autres armes qui peuvent être beaucoup plus redoutables que celles que les hommes ont. On va dire un grand merci à tout le monde. Merci Olivier Touzolan à la technique. Merci à toute l'équipe d'Internews d'avoir organisé ça. Et à très bientôt. Au revoir.